Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Alléluia. Tourne avec moi sans plus tarder ce matin dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4. Nous allons entamer une série de prédications qui va débuter ce matin, qui continuera dans 14 jours et qui va aussi se continuer à l'automne lorsque je serai de retour parmi vous. Le titre de cette série est celui-ci, « La cité de Dieu ». La cité de Dieu. Dieu a une cité. Amen. Dieu a un refuge pour ceux qui cherchent un refuge. Dieu a un endroit pour ceux qui cherchent une nouvelle vie. Dieu a une cité. Il y a une cité qui s'appelle la cité de Dieu. La Bible nous parle d'une cité céleste. Et la Bible nous dit que Jésus est venu briller dans les ténèbres. Et Jésus est venu briller là où il y avait les ténèbres. Et cette semaine, alors que Raymond et Georges étaient chez nous à la maison, qu'ils dormaient en plein milieu de la nuit, ils ont eu la bonne idée de se lever et d'allumer une lumière. Et parce que je sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient faire, mais je crois qu'ils voulaient aller à la toilette, l'un d'eux, ou vous avez affaire dans la maison, et ils se sont trompés. Il y avait deux interrupteurs. Il y avait un interrupteur pour ouvrir la lumière dans le corridor, et il y avait un interrupteur pour ouvrir la lumière dans la chambre de mes enfants. Et ils se sont trompés. Ils ont ouvert la lumière dans la chambre de mes enfants. Et en plein milieu de la nuit, alors que la lumière est restée ouverte, mes deux filles obéissantes, soumises à leur père, sans chigner, sans râler, sans se plaindre, se sont levées au milieu de la nuit, ont commencé à s'habiller pour aller à l'école, à se préparer, à faire leur toilette, tout s'arranger. Et moi, j'étais à moitié réveillé, j'ai vu qu'il y avait de la lumière, j'entendais des pas dans la maison. J'ai dit, ah, ça doit être les gens qui sont parmi nous, qu'on accueille, qui ont affaire dans la maison. Et finalement, elles descendent à la cuisine pour aller préparer le petit déjeuner. Et elles commencent à faire leur truc. Elles disent, où sont papa, où sont maman? Ils vont arriver, tout ça. Et finalement, elles regardent l'heure. Et il est quoi? 1h du matin. Alors, elles retournent. Elles disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, elles retournent se coucher. Et finalement, quand le matin arrive, mon épouse va les réveiller. Elle se lève, toute cassée, voyez-vous, toute fatiguée. Et ma femme les voit sortir du lit, toute habillée. Toute prête pour l'école. Alors, on a développé cette nouvelle habitude maintenant. On les réveille à 1h du matin. Elles s'habillent. Elles sont prêtes à aller à l'école. C'est une très, très bonne idée, non? Mais ça m'a fait penser que lorsqu'il y a la lumière, les choses bougent. Amen. Lorsqu'il y a la lumière, on se lève. Et le prophète avait parlé de Jésus qui viendrait et qu'il viendrait comme une lumière briller dans les ténèbres. Et quand Jésus est venu, les choses ont commencé à bouger, la Bible dit. Jésus a commencé à remuer des choses. Jésus est venu amener l'espoir. Et la Bible dit que jamais personne n'a vu Dieu. Les religions du monde entier essaient d'interpréter qui est Dieu. Mais la Bible dit que lorsque Jésus est le Fils de Dieu, moi je crois cela parce qu'il a changé ma vie, il l'a prouvé. Et la Bible dit que lorsque Jésus est venu comme le Fils de Dieu. Personne n'avait jamais vu le Père. Jean 1 nous dit, mais quand Jésus est venu, il a révélé qui est le Père. Et Jésus a gardé un sujet pour lui. C'est le sujet que nous allons voir ensemble dans les prochaines semaines. Un sujet qui n'avait jamais été adressé dans l'Ancien Testament. Jamais aucun prophète n'avait adressé ce sujet, n'avait enseigné sur ce sujet. Aucun prophète, Dieu dans le ciel, de tout ce qu'il a partagé, son cœur à ses prophètes, à ses serviteurs dans l'Ancien Testament, c'est garder un sujet pour lui. Et je ne fais pas du show ce matin dans la maison de Dieu, je n'exagère pas, c'est vraiment vrai. Dieu a gardé un sujet pour lui et il s'est dit, il faudra, comme il a été chanté ce matin, il faudra que moi, Emmanuel, le mot Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Et le prophète avait dit que Dieu descendrait des cieux, que Dieu serait fait chair et que Dieu viendrait sur terre. Et nous voyons que c'est une réalité parce que personne comme la personne de Jésus dans le monde entier n'est autant contesté et attaqué parce qu'il incarne, j'en suis profondément convaincu, la personne de Dieu. Et quand Jésus est venu sur terre, il a amené cette vie, il a amené cet espoir, il a amené cette lumière et il s'est gardé pour lui un sujet qu'il n'a pas donné, qu'il n'a pas confié à aucun serviteur. Il lui fallait lui-même venir sur terre et enseigner ce sujet. Il a envoyé Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a commencé à prêcher. Et les gens ont été surpris. Les gens n'avaient jamais entendu un tel message. Vous devez comprendre ceci ce matin. Même si les Juifs, même si Israël était un peuple religieux, était un peuple où la grande majorité du peuple croyait au Dieu d'Israël, croyait à ce Dieu Jéhovah, comme il a été chanté ce matin. Jéhovah, c'est pas juste un nom qui est branché à une secte quelque part dans le monde aujourd'hui. Jéhovah, c'est l'un des vrais noms de Dieu. Et la Bible dit que la Bible nous montre que alors que ce peuple croyait, attendait quelque chose, tout à coup un homme se pointe, il s'appelle Jean-Baptiste, et il se met à prêcher un message qui n'a jamais été prêché, mais qui est profondément biblique. Jean-Baptiste prêche la repentance. Le mot repentance veut dire je marchais par là et tout à coup je me retourne et je marche par là. C'est tout ce que ça veut dire le mot repentance. Changer de voie. Et Jean-Baptiste dit aux gens, changez de voie car le royaume des cieux, la cité de Dieu, le royaume des cieux est proche. Il va passer le relais à Jésus et la Bible dit que Jean-Baptiste prêchait la repentance car le royaume des cieux était là, était tout près. Il va passer le témoin à Jésus, le Fils de Dieu. Et Jésus va continuer dans la même continuité, la même pensée du message que Jean-Baptiste. La Bible dit que Jésus parcourait tout Israël et toute la Samarie et toute la Judée. Il prêchait la repentance parce que le royaume des cieux était là. Jamais personne n'a enseigné ou parlé du royaume des cieux comme Jésus-Christ. De tout ce que Jésus a parlé, son sujet préféré, le sujet numéro un de notre Seigneur, c'était le royaume des cieux. La cité de Dieu qui allait venir. Jamais personne, Jésus a beaucoup expliqué, beaucoup donné de paraboles, beaucoup tenté de nous aider à comprendre qu'est-ce que le royaume des cieux. À un moment donné, il va le prendre ses disciples près de lui, il va les oindre et les envoyer prêcher à leur tour. Et la Bible dit qu'il leur dit de ne pas prêcher n'importe quoi, d'aller partout et de prêcher le royaume des cieux. La Bible nous dit qu'il va leur dire ceci, il faut aller prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle doit aller jusqu'au bout du monde. Et le mot bonne nouvelle nous a donné le mot évangile. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? On peut pas prêcher n'importe quoi. On peut pas interpréter qu'est-ce que la bonne nouvelle est comme nous on veut. Jésus a dit, la bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée jusqu'au bout de la terre, après viendra la fin. C'est la prédication du royaume des cieux, de la cité de Dieu qui va même déterminer la fin des temps. Et la Bible nous montre clairement que Jésus est allé à la croix. Et dans sa mort, il nous a ouvert la porte du royaume des cieux. Il est mort, il est ressuscité. Et lorsqu'il a ressuscité, il aurait pu monter au ciel tout de suite, mais il a attendu. Et la Bible dit, vous lirez ça dans Actes 1er chapitre, la Bible dit explicitement et très précisément que Jésus a attendu et qu'il est resté 40 jours encore une fois ressuscité avec ses disciples pour leur enseigner le royaume des cieux, le règne de Dieu, la cité de Dieu. Imaginez si vous vous inscrivez à un cours en théologie et que votre professeur et Jésus-Christ en personne. Ressuscité. Vous imaginez la chance qu'ils ont eue? Pendant 40 jours, Jésus les visitait dans une pièce. Pendant 40 jours, ils avaient un cours biblique. J'aimerais bien voir ça. Pendant 40 jours, c'était Jésus ressuscité qui apparaissait devant eux et qui leur enseignait le royaume des cieux. Et la Bible nous enseigne qu'après est né, est arrivée l'Église. Maintenant, l'Église a pris toutes sortes de formes. L'Église a pris toutes sortes de déformations aussi dans le monde et à travers les générations. Mais ultimement, à la racine, à l'origine, le désir de Dieu, c'était vraiment le sens même du mot Église. Le mot Église signifie « sorti de », « hors de ». Le monde a regardé les chrétiens. Pour certains, ça vous pouvait paraître bizarre. Et je crois pas que Dieu voulait que les chrétiens sortent littéralement du monde et aillent s'enfermer, partir quelque part dans la forêt, dans les montagnes et s'enfermer. Non, non, non. Mais les chrétiens avaient la réputation, dans les Actes des Apôtres, les premiers chrétiens, avaient la réputation d'être de bons citoyens, d'être terre à terre, d'être des gens ordinaires, mais des gens qui n'étaient pas partis à quelque part. Ils étaient dans le monde, mais ils n'étaient plus du monde. Ils ne pensaient plus comme le monde. Et on les a appelés l'Église. Ils sont un groupe, ils sont une assemblée qui est hors de... Ils sont sortis, et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin, ils sont sortis surtout d'une mentalité. Un seul homme a prophétisé dans l'Ancien Testament, c'est ce qui va apparaître à l'écran. Un seul homme a prophétisé dans l'Ancien Testament la venue de ce royaume. Daniel, Dieu dira à Daniel, 4 rois se lèveront. Regardez bien ceci, comment c'est précis. Un royaume qui est aujourd'hui. Un royaume de Dieu qui est pour aujourd'hui. Notez bien ceci ce matin. Plusieurs personnes croient que le royaume des cieux va un jour venir, ou qu'un jour, lorsqu'on va monter, qu'on va se retrouver avec Dieu, on va entrer dans le royaume des cieux. Mais j'aimerais vous montrer clairement aujourd'hui, et la Bible l'enseigne clairement, vous pouvez même ouvrir le dictionnaire, le petit Robert. Et le petit Robert va vous dire que le royaume des cieux est aujourd'hui. C'est pas beau, ça? 4 rois se lèveront, Dieu a dit. Ces 4 rois sont précis. Même les historiens, les théologiens, ceux qui étudient la Bible s'entendent tous pour dire que ces 4 rois, c'était l'Empire babylonien, les Mèdes et les Perses, les Grecs qui allaient venir, et puis les Romains. Et Dieu dit, regarde bien Daniel, il va se lever 4 rois, puis les saints du Très-Haut, ça c'est les chrétiens, recevront quoi? La royauté. On pourrait aussi traduire un royaume. Ils posséderont la royauté pour toujours et à jamais. À partir de Jésus-Christ, un royaume est arrivé. À partir de Jésus-Christ, un royaume est disponible, une nouvelle vie est disponible. Or, au jour de ces rois, Daniel 2, 44, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne sera pas laissée à un autre peuple. Frères et sœurs, c'est d'une grande importance capitale pour nous de chercher le royaume des cieux, d'étudier le royaume des cieux, de se préoccuper de ces choses-là. L'apôtre Paul va même dire aux premiers chrétiens, cherchez les choses d'en haut, cherchez les choses célestes, intéressez-vous aux choses de Dieu. Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous 2 vérités très importantes sur le royaume des cieux. C'est un début ce matin. Mais premièrement, le royaume des cieux est une cité. Premièrement, c'est une cité éternelle, c'est ce qui apparaît à l'écran. Et deuxièmement, nous allons voir qu'il y a une entrée qui est conditionnelle dans le royaume des cieux. Mais premièrement, c'est une cité qui est éternelle. Les Juifs, les Hébreux, Israël avaient une perception du royaume des cieux qui était très différente de ce qui allait venir vers eux et leur être enseigné par Jésus-Christ. Ils avaient cet héritage à travers les enseignements des pharisiens, à travers toute l'histoire d'Israël et même d'autres récits. Mais toutes les fois qu'il est mentionné dans l'Ancien Testament, le royaume de Dieu, il n'est pas mentionné l'expression « le royaume des dieux » ou « le royaume des cieux ». Ça, c'est tout nouveau. Ça, c'est arrivé avec Jean-Baptiste. La première fois que cette expression arrive, c'est Jean-Baptiste. Mais avant, dans l'Ancien Testament, on parlait du royaume d'Israël, la restauration du royaume d'Israël. Et cette pensée qui était encore cachée, qui a été révélée par Jésus avant, mais qui était encore fermée comme un coffre au trésor, enfermée, cette pensée était vue par les Juifs comme étant simplement une restauration des choses autour d'eux. Les Juifs attendaient un roi humain, un homme. Ils attendaient simplement la restauration de la lignée royale de David. Écoutez-moi bien ce matin, je sais que certains d'entre vous, ça vous intéresse pas, mais je m'en vais quelque part. Inquiétez-vous pas, le Saint-Esprit va se rendre jusqu'à votre cœur ce matin. Paf! Ils attendaient une restauration politique, une restauration de leur environnement. Les Juifs attendaient une meilleure qualité de vie. Les Français ont voté pour augmenter leur pouvoir d'achat. Les Juifs pensaient pareil. Les Canadiens pensent pareil. Et les hommes partout dans le monde entier cherchent tout simplement à régler les problèmes autour d'eux. Et ils pensaient comme ça. Ils pensaient un jour quelqu'un va venir. Ça va être un homme, il va monter sur le trône. Il va nous donner une meilleure qualité de vie. Il va changer notre environnement. Les choses vont changer. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien ce matin. N'est-ce pas comme cela parfois que les chrétiens voient le royaume de Dieu? N'est-ce pas comme cela parfois que nous, les premiers, avons la conception des choses de Dieu? Certains chrétiens croient que le royaume des cieux, c'est un jour quand nous irons au ciel. D'autres savent que le royaume des cieux, le royaume de Dieu, la cité de Dieu est à saisir aujourd'hui. Mais leur perception est très limitée. Ils croient que le royaume des cieux, c'est un endroit où je peux entrer spirituellement. Oui, je crois à la spiritualité. Je peux y entrer dans une nouvelle vie. Mais c'est comme si je passe d'une ancienne vie à une nouvelle vie. Et maintenant, je vais entrer dans une nouvelle vie. Et là, je suis dans le royaume des cieux. Là, je suis dans le royaume de Dieu. Là, maintenant, je suis spirituellement dans la cité de Dieu. Et je peux saisir des promesses. Je peux m'emparer des bénédictions de Dieu. Et même certains enfants de Dieu se limitent à voir dans ce livre un livre rempli de bénédictions, un livre rempli de réconfort, rempli de consolation, rempli de promesses. C'est vrai, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Lorsque nous étudions le royaume des cieux, lorsque Jésus a commencé à enseigner, il s'est heurté à une mentalité qui était complètement contraire à lui. Une perception tellement humaine, tellement limitée. Et Jésus lui-même dira, non parce qu'il savait pas quoi dire, mais parce qu'il voulait nous, il voulait exprimer à quel point nous ne pensons pas comme Dieu. À un moment donné, Jésus fera une déclaration et dira, mais à quoi comparer le royaume des cieux? À quoi puis-je comparer le royaume de Dieu? Il savait ce qu'il allait dire. C'est pas qu'il se posait la question, mais il voulait qu'on sache. Il voulait qu'on ressente, qu'on sache que Dieu se prépare à nous montrer qu'il ne voit pas les choses comme nous. Et à un moment donné, il va casser toute la mentalité que nous pouvons avoir, nous, du royaume des cieux. Et à l'époque, ceux qui l'écoutaient, Jésus dira littéralement, le royaume des cieux ne vient pas de façon à être vu. Ne vient pas de façon visible. Et là, je suis certain qu'il y a toute une foule qui écoutait Jésus, qui a commencé à se dire, mais c'est pas de ça qu'on s'attendait. Moi, j'ai mis toute mon espérance en Dieu. J'ai étudié la loi. J'avais une religiosité dans ma vie. J'avais une croyance en Dieu. Dieu avait une importance dans ma vie. Et je croyais qu'en en considérant les choses de Dieu, en venant à l'église, en servant Dieu, en m'impliquant, je croyais que ça allait améliorer ma qualité de vie. Je croyais trouver une paix dans la maison de Dieu. Je croyais trouver une joie. Et puis tout à coup, je croyais voir des résultats visibles du royaume de Dieu. Et Jésus dit, le royaume de Dieu ne cherche même pas à venir de façon visible. Dieu, frères et sœurs, ne cherche même pas le spectaculaire, le show, à se montrer et à nous montrer littéralement, dès le départ, il y aura des résultats visibles, il y aura des fruits visibles. Mais écoutez-moi bien, Dieu ne cherche pas ce que nous cherchons. Le royaume des cieux, un jour, remplira toute la terre dans sa gloire, la Bible nous dit. Mais présentement, ce que la Bible nous montre clairement, c'est que Dieu veut déposer et faire descendre le royaume des cieux dans le cœur de l'homme. L'homme veut changer son environnement. L'homme veut améliorer sa qualité de vie. Mais Dieu lui s'intéresse à changer son cœur. L'homme attend un royaume, même aujourd'hui. Certains chrétiens voient un endroit où ils peuvent entrer spirituellement et saisir les bénédictions de Dieu. Mais Dieu, lui, veut amener le royaume des cieux, la cité céleste de Dieu dans leur cœur. Il nous faut aussi comprendre quelque chose de très essentiel. C'est que le royaume des cieux est étroitement lié à une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Si vous avez étudié, allez, étudiez que ce soit dans un dictionnaire, une encyclopédie ou dans l'histoire, vous verrez que partout dans le monde autour de nous, lorsqu'on parle de royaume, on parle du roi. Les historiens nous disent qu'un royaume ressemble à son roi. Des générations ont connu toutes sortes de rois, et lorsqu'il y avait un bon roi, il y avait un bon royaume. Le royaume est étroitement lié à son roi. Et écoutez-moi bien ce matin, même la définition de la monarchie, vous savez, le mot monarchie, on peut le définir très, très, très simplement. La définition de la monarchie, c'est ceci, le gouvernement d'un seul. Et quand Jésus a commencé à parler du royaume des cieux, il parlait de lui. Quand Jésus a commencé à enseigner la cité de Dieu, le royaume des cieux, quand Jean-Baptiste a dit « le royaume des cieux vient », quand Jésus dit « le royaume des cieux vient », mais non de façon à être vu, il est en train de parler de lui. Quand Jésus dit « le royaume des cieux est comme un trésor caché », il est en train de parler de sa personne. Jésus dit « je suis le royaume des cieux, je suis comme un trésor pour ta vie ». Il y a plus qu'une bénédiction à chercher, mon frère, ma sœur. Il y a plus qu'une promesse à saisir dans le royaume de Dieu. Il y a la personne qui fait la promesse. L'auteur de la promesse. L'auteur de la bénédiction. Écoutez, attendez. Paul a dit lui-même, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Quand un homme et une femme s'intéressent à la personne de Dieu, ils s'intéressent à toutes les bénédictions de Dieu. Quand un homme et une femme s'intéressent au Fils de Dieu, ils s'intéressent à tout le royaume des cieux. Quand un homme et une femme cherchent la face de Jésus-Christ, ils cherchent à le connaître, ils cherchent toutes les promesses et les bénédictions que Jésus a pour lui. N'ouvrez plus la Bible pour chercher une petite pensée qui va vous faire du bien. Ouvrez la Bible pour chercher le Fils de Dieu et vous aurez les promesses qui viennent avec. L'apôtre Paul dira littéralement, revêtez-vous. L'apôtre Paul parle à des chrétiens, il ne parle pas à des non-croyants. Il parle à des gens qui aiment Dieu. Il voit que les chrétiens, à l'époque, n'ont pas tout saisi. Dans Éphésiens, on va le lire maintenant. Et l'apôtre Paul voit qu'ils n'ont pas tout saisi. Il leur dira ceci, regardez avec moi, chapitre 4 et le verset 22. Chapitre 4, verset 22. Il vous faut, il parle à des chrétiens, c'est très important, renonçant à votre existence passée. On parle ici de changer de ville, changer de cité, changer de royaume, changer de vie. Il vous faut vous dépouiller du vieil homme. Ça veut dire le « je me moi » qui se corrompt sous l'effet des convoitises trompeuses. Regardez bien. Il vous faut être renouvelé par la transformation spirituelle de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité. Paul avait compris que le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ. Et Paul dit, il vous faut revêtir le nouvel homme. Plus, vous me dites, mais comment tu sais que c'est Jésus le nouvel homme? Parce qu'un peu plus loin, l'apôtre Paul dira, revêtez donc Jésus-Christ. Jésus est mon vêtement. Jésus est mon armure. Jésus est cet homme nouveau qui vient. Et j'aime tellement cette pensée qu'un jour, un homme de Dieu a dit, lorsque tu te revêts de l'homme nouveau vient régner sur l'ancien homme, sur le vieil homme. Le « je me moi », le pécheur, celui qui veut pas s'approcher de Dieu. Et quand tu viens à Dieu et que tu t'intéresses à Dieu, c'est tellement simple le royaume de Dieu. Jésus a dit « cherchez le royaume de Dieu ». Et lorsque tu cherches le royaume de Dieu, Dieu te revêt de Jésus-Christ. Dieu te revêt du nouvel homme. Il ira encore plus loin. Parce que lorsqu'un homme ou une femme s'intéresse à chercher Dieu, Paul dit littéralement « tu viens à être spirituellement transformé dans ton intelligence. » Aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu dans nos vies, lorsqu'on accorde du temps à la maison, vous pouvez prier à l'église et c'est une bonne chose, mais vous pouvez prier n'importe où. Vous êtes invité de la part de Dieu à communier avec Dieu n'importe où, dans votre voiture, à la maison, dans un bus, dans un train, dans un métro, dans un avion, peu importe, sur un bateau, un sous-marin, on s'en fout. N'importe où vous êtes, vous pouvez communier avec le Saint-Esprit. Je dis un sous-marin, hein, parce que j'ai parlé avec un homme chrétien qui travaillait dans des sous-marins. Pendant des mois, il était parti et pouvait communier quand même avec Dieu. Jusqu'au bout de la terre, un homme et une femme peut communier avec Dieu. Et lorsqu'il communie avec Dieu, qu'il accorde du temps à s'intéresser aux choses de Dieu, au royaume des cieux, à Jésus-Christ. Paul dit, le Saint-Esprit vient dans ta vie et le Saint-Esprit va... Oui, le Saint-Esprit va t'amener une paix. Oui, Dieu pourrait régler tous vos problèmes, mais vous n'aurez pas la paix. On voit des gens parfois qui ont tellement tout ce qu'ils veulent, mais n'ont pas trouvé la paix. Et lorsqu'un homme ou une femme cherche le royaume des cieux, le Saint-Esprit vient dans sa vie et lui accorde, oui, une paix, un amour, une joie, une sérénité. Mais par-dessus tout, le Saint-Esprit va aller jusqu'à l'intelligence. Et il veut amener une transformation dans notre intelligence. Dieu s'intéresse à changer notre façon de penser. Dieu s'intéresse à nous amener la culture du royaume des cieux. La mentalité, les valeurs, les principes, les préceptes du royaume des cieux. Là est la richesse pour le royaume. Là est la richesse pour l'enfant de Dieu. Certains chrétiens cherchent une joie, certains chrétiens cherchent un épanouissement à servir dans l'église, à servir autour d'eux. Et voyez-vous, je voyage beaucoup et je parle avec des gens parfois qui viennent me voir et je fais beaucoup de choses aussi pour les jeunes. On fait des rassemblements de jeunes. Et souvent, les jeunes qui viennent se confier en moi me disent, pasteur, j'aimerais tellement servir Dieu. J'aimerais tellement faire quelque chose pour Dieu. Et c'est vrai que Dieu veut qu'il soit à son service. C'est vrai que Dieu a une place pour eux. Mais parfois, on a mal prêché ces jeunes. Parfois, on a prêché. Même dernièrement, je regardais un truc sur Internet. J'avais une tristesse, mais pas pour accuser ou condamner qui que ce soit, mais il y avait une tristesse dans mon cœur. Je me disais, non, c'est pas ça qu'il faut leur dire aux jeunes. Pas tout de suite. On disait aux jeunes, vous pouvez aller changer le monde pour Jésus. Vous allez changer le monde pour Jésus. Et le gars disait, change the world. Changez le monde pour Jésus. Et j'avais une tristesse. Je me disais, c'est pas ça qu'il faut leur dire. Il faut pas leur dire tout de suite d'aller changer le monde. Il faut leur dire que Dieu peut changer leur cœur. Que le royaume des cieux veut venir et changer leur cœur. Et des gens parfois cherchent. J'aimerais vous déposer dans votre cœur un avertissement divin ce matin. Un saint avertissement avec amour. Ne trouvez pas votre joie dans le service pour Dieu. Servez l'Éternel avec joie, oui, mais ne trouvez pas votre joie à servir Dieu. Parce que le service, c'est un carburant très volatile. C'est un carburant qui se consomme très vite. Et vous aurez un service dans la maison de Dieu, mais rapidement, vous allez être déçu. Il va vous falloir plus. Il va vous falloir monter dans la maison de Dieu. Parce que votre joie, ça va être qui vous êtes dans la maison de Dieu. Votre joie, ça va être ce que vous faites dans la maison de Dieu. Et là, il va vous falloir plus. Un meilleur titre, de plus grandes responsabilités, aller plus loin, être encore plus vu, être encore plus connu. Et vous n'en finirez jamais. Vous verrez que les hommes de Dieu, ceux qui ont trouvé la joie, n'ont pas trouvé la joie dans le service pour Dieu. N'ont pas trouvé la joie à servir dans le royaume des cieux. Ils ont trouvé leur joie dans qui est le royaume des cieux. Dans la personne de Jésus. C'est tellement important. Voyez-vous, je réfléchis même, je suis en train d'étudier, je n'ai pas terminé mon étude, mais je médite beaucoup sur cette pensée que moi-même, parfois, j'ai dit dans le passé, je me dis, Dieu est bon, Dieu nous aime. Dieu ne nous a pas tapé dessus parce qu'on a fait des erreurs peut-être théologiques. Mais même cette pensée de bâtir le royaume des cieux, construire le royaume des cieux, je ne suis pas convaincu en date d'aujourd'hui que c'est biblique. Parce que Dieu n'a jamais parlé d'un royaume qui était à construire. Dieu a parlé d'un royaume qui existait déjà, qui était complet, que tout était accompli, et un royaume dans lequel nous pouvions entrer. Je ne suis pas convaincu de cette pensée de « bâtissons le royaume des cieux ». Je suis convaincu que nous pouvons nous emparer du royaume des cieux. Mais je crois beaucoup plus le contraire. Je crois que c'est le royaume des cieux qui veut nous reconstruire. Parce que quand l'apôtre Paul dit « soyez transformés », ici le mot « transformés », dans le grec, la pensée de Paul, c'est qu'il regarde des chrétiens qui sont nés nouveaux, des gens qui aiment Dieu. Et l'apôtre Paul dit « vous êtes déformés ». Le mot ici que l'apôtre Paul utilise pour transformer, il implique précisément dans son terme, vous êtes déformés, vous êtes venus à Christ et vous ne pensez pas bien, vous ne voyez pas bien la vie. Et l'apôtre Paul dit, le Saint-Esprit veut venir et il veut vous transformer. C'est plus que d'être reformé, c'est d'être transformé dans notre intelligence. Frère et sœur, je crois qu'il y a une roue. Voyez-vous, lorsqu'on regarde une montre, qui a tous ses engrenages. Il y a une première roue, un premier engrenage. Si c'est elle qu'on fait tourner, toutes les autres roues, tous les autres engrenages vont tourner autour. Et Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et quand un homme ou une femme accorde de l'importance à chercher le royaume, tout se met à tourner dans sa vie. Ce qui était bloqué se débloque. Ce qui ne bougeait pas se met à bouger. Là où il n'y avait pas de vie, il commence à y avoir de la vie. Frères et sœurs, Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Je suis même interpellé par cette pensée, cette prophétie, où David dit à Dieu, je veux te bâtir une maison. Vous connaissez ça? David est un roi, il dit, Seigneur, j'ai une maison, mais toi, tu n'as pas de maison. Et je veux te bâtir une maison. Et la Bible dit que Dieu va parler au roi David, et il va lui dire ceci. Mais c'était pas juste pour son époque, c'était prophétique et spirituel et très profond. Dieu a repris David. Il a dit à David, ce n'est pas à toi de me bâtir une maison. Et regardez bien ce qu'il dit. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, David, je n'ai jamais demandé à personne de me bâtir une maison. Oui, Salomon est venu. Et de la part de Dieu, il a dû construire un temple. Mais il y avait un sens prophétique et spirituel derrière ça pour nos vies. Dieu dit à David, ce n'est pas à toi de me construire une maison. Dieu dit, c'est moi qui vais te construire une maison. Et il dit, il sortira de ta lignée un homme. Ton fils viendra et lui me construira une maison. C'était pas Salomon aussi. Oui, Salomon dans un premier sens. Mais il y avait un sens de prolepticité. Ça veut dire qu'il y avait un sens pour l'époque et un sens prophétique. Dieu est en train de dire à David, il y a quelqu'un qui va sortir de ta lignée. Et la Bible dit que Jésus est le fils de David. Jésus est directement descendu de la lignée de père en fils de David. Et Dieu dit à David, tu veux me bâtir une maison, mais c'est moi qui vais te bâtir une maison. Et il va venir quelqu'un qui va me bâtir une maison. Frères et sœurs, c'est extraordinaire. Vous savez pourquoi c'est, avant de dire amen, écoutez bien. Vous savez pourquoi c'est extraordinaire? Parce que c'est la même maison. Dieu ne parle pas de deux maisons différentes. Dans la prophétie, Dieu parle de la même maison. Dieu dit, je te construirai une maison et mon fils qui veut, comprenez, j'interprète ce matin. Mon fils va venir, Jésus va venir, il va me construire cette maison. En fait, Dieu a parlé à David d'une seule maison. David, j'ai une maison pour toi, mais ça va être ma maison à moi aussi. Et quand Jésus est venu, il est la maison de Dieu. Jésus a dit, vous pouvez détruire le temple, je le rebâtirai en 3 jours. Jésus est le temple de Dieu. Jésus est la cité de Dieu. Jésus est le royaume des cieux. Et quand Jésus est venu, il est venu comme une maison pour nous. dans laquelle nous pouvons entrer spirituellement. Frères et sœurs, continuez à servir dans l'Église. Continuez à vous impliquer à l'Église. Mais j'aimerais vous dire ceci. La maison de Dieu spirituelle, elle est déjà construite. Elle est déjà complète. Et même l'Église, Jésus a dit, je bâtirai mon Église. On peut travailler avec lui, on peut l'aider, mais c'est lui qui va bâtir son Église. Et j'aimerais vous dire ceci. On ne sera pas toujours ici. Parce qu'il faut que cette Église grandisse. On ne sait pas si on va grandir ici ou si on va grandir ailleurs, mais on sait une chose, c'est que c'est lui qui va la construire, l'Église. Il a une maison dans laquelle il veut habiter avec toi et moi. C'est ça, la spiritualité. C'est ça, le royaume des cieux. Dieu a dit, j'ai une maison pour toi et une maison pour moi. Et on va habiter ensemble. Je termine avec cette pensée ce matin. Premièrement, c'est une cité qui est éternelle. Et pourquoi elle est éternelle? Je ne veux pas trop être long ce matin. Mais Dieu dira à Daniel, la royauté ne leur sera jamais enlevée. Elle sera pour toujours. Et je vais adresser quelque chose en terminant ce matin. Il y a 2 semaines, mon épouse et moi avons célébré notre 15e anniversaire de mariage. Et dans cette, on s'est fait une petite soirée ensemble, tout ça, et puis mon épouse a sorti des photos de mariage, des gens qui étaient là. Et notre soirée de joie est devenue une soirée de deuil. Parce qu'on a commencé à remarquer que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui étaient à notre mariage, aujourd'hui, se sont éloignés des choses de Dieu. On a remarqué que, on a compté ensemble, on a évalué qu'à peu près 80% des gens qui étaient à notre mariage, aujourd'hui, leur mariage s'est éclaté. Et mon épouse a commencé à regarder d'autres photos, quand on était jeunes, notre groupe de jeunes, notre église à l'époque. Même j'ai une photo de ma classe à l'école biblique. Et sur la majorité des gens qui étaient dans ma classe, la majorité sont loin de Dieu. Il y en a peut-être 2 seulement qui sont au service de Dieu. Et on regardait des photos d'église, des photos d'amis. Puis on a commencé à être peiné, de dire, mais c'est incroyable. Mais ils sont plus chrétiens et tout. Cette semaine, on avait une Canadienne qui était dans notre cuisine, qui est venue pour son travail sur Évreux. Elle est venue, elle parlait avec mon épouse. Elle parlait de certaines personnes qui se sont éloignées de Dieu. Le week-end dernier, j'étais sur Auxerre. On a fait 1 heure de voiture, on est allé jusqu'à 9 heures. Et j'étais avec un frère, et il me dit, Christian, qu'est-ce que tu penses de ça? Que dis-tu du fait que je vois des gens qui, à travers, et ça fait 30 ans que je suis chrétien, et j'ai vu des gens s'éloigner de Dieu. Et ça a commencé à peser lourd sur mon cœur. J'ai dit, Seigneur. Et Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais ça ne m'a pas encouragé. Je me dis, Seigneur, c'est comme si il faut s'accrocher. Il y aura des tempêtes, il y aura des tentations. Il faut s'accrocher. Seigneur, fais qu'on persévère jusqu'à la fin. Mais ici, le texte de Daniel m'a beaucoup encouragé. Parce que Dieu dit à Daniel, je veux faire une œuvre. Je vais mettre une royauté dans le cœur de mes enfants. Je vais mettre un royaume dans le cœur de mes enfants. Et personne ne va jamais leur enlever. Regardez bien ceci. 4 rois se lèveront. Après cela, viendra un royaume. Les saints du Très-Haut recevront la royauté. Ils posséderont la royauté pour toujours et à jamais. Et leur Dieu suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne sera pas laissée à un autre peuple. Comment, en terminant ce matin, comment peut-on, en tant qu'enfant de Dieu, garder cette royauté dans notre cœur et ne jamais la perdre? Je crois vraiment à une simple réalité, la foi. Croire. Ce matin, si tu crois que Dieu peut le faire dans ta vie, il va le faire. Ce n'est pas ton œuvre, ce n'est pas toi qui vas te garder. Oui, tu as une part à jouer. Oui, nous avons une implication à jouer dans l'œuvre de Dieu. Mais il nous faut croire que Dieu peut garder notre mariage. Il nous faut croire que Dieu peut garder nos enfants. Il nous faut croire que Dieu peut faire une œuvre dans les jours que nous vivons. Oui, peut-être nous allons voir certains être légers avec les choses de Dieu et s'éloigner de Dieu. Mais nous pouvons croire que Dieu va faire une œuvre qui n'arrêtera jamais. Que Dieu va déposer un royaume dans le cœur des gens qui s'approchent de lui. Et jamais personne ne pourra venir leur arracher leur royauté. Je termine très rapidement avec cette pensée. C'est une cité qui est éternelle. Personne ne pourra jamais leur enlever la royauté de Dieu. Mais en terminant, très rapidement, c'est une entrée qui est conditionnelle. Lorsque nous étudions sur le sujet du royaume des cieux, il est très intéressant de voir que Jésus a beaucoup expliqué qu'est-ce que le royaume des cieux. Mais Jésus n'a pas donné beaucoup de prérequis pour entrer dans le royaume des cieux ou pour se saisir du royaume des cieux. Très, très, très peu de conditions. Et ce matin, j'aimerais terminer avec une seule condition. C'est fascinant de voir que de tout ce que Jésus a dit sur le royaume des cieux, il a adressé avec une telle simplicité et a dit, il y a un type de personne, une seule sorte de personne qui peut entrer dans le royaume des cieux. Il n'a pas dit les justes, il n'a pas dit ceux qui sont bons, ceux qui le méritent. Jésus a dit, il y a une seule sorte de personne qui peut entrer dans le royaume des cieux. Ce sont les pauvres en esprit. C'est bizarre, hein? Regardez, le texte va apparaître à l'écran. Heureux les pauvres en esprit. Mais voyez-vous, si on n'étudie pas le texte, on peut croire que Jésus cherche les gens qui sont un peu trop simples. Voyez-vous, les simplets. Même dans notre français à nous, quelqu'un qui est un peu bête, tu vois? C'est comme si on ne comprend pas le texte, on peut avoir l'impression que Jésus dit « Heureux ceux qui sont bêtes. Heureux ceux que je peux manipuler. Heureux ceux qui réfléchissent pas trop, le royaume des cieux t'a eu. » C'est pas ça du tout que Jésus voulait dire. Il y a même un film qui a été promu au Festival de Cannes dernièrement qui s'appelle « Agora ». Et l'actrice principale a donné une entrevue que j'ai écoutée. Et elle cite ce verset. Elle dit « Jésus a dit « Heureux les pauvres ». Et ça produit des guerres, ça produit des révolutions. Peut-être si des hommes ont manipulé ce que Jésus a dit et ont mal interprété ce que Jésus a dit. Mais Jésus n'a jamais voulu dire « heureux les bêtes ». Heureux ceux qui réfléchissent pas trop. Au contraire, Jésus nous invite beaucoup à réfléchir. Jésus nous rend encore plus intelligents. Les principes et les valeurs de Dieu nous rendent pas mystiques. Les valeurs de Dieu nous rendent beaucoup plus terre à terre, au contraire. Quand Jésus a dit « heureux les pauvres en esprit », en fait, il parle ici, il utilise un terme qui adresse directement l'économie grecque de l'époque. Il y avait trois types de personnes dans le rang économique selon Aristote. Il y avait les mendiants, il y avait les pauvres, il y avait les riches. Et le pauvre, c'était pas quelqu'un qui avait rien. Le pauvre, c'est pas quelqu'un qui était comme un mendiant. Chez les Juifs, le mot pauvre voulait dire un mendiant. Mais chez les Grecs, et Jésus, c'est ça qui vient frapper. Jésus va utiliser un terme de l'époque pour nous faire comprendre qui peut entrer dans le royaume des cieux. Et le pauvre à l'époque, c'était quelqu'un qui pouvait avoir une maison. C'était quelqu'un qui pouvait avoir des biens. Mais le pauvre à l'époque, c'était quelqu'un qui n'avait pas assez de patrimoine pour ne pas travailler. Il y avait des gens à l'époque qui avaient tellement de patrimoine, avaient tellement de biens, avaient tellement de terres autour d'eux, avaient tellement tout, avaient tellement de l'argent, avaient tellement un patrimoine qu'ils pouvaient s'asseoir. Il y avait des Grecs à l'époque qui profitaient de leur villa, qui étaient dans un hédonisme incroyable, qui vivaient et qui se replaçaient dans tous les bonheurs de la vie. Et ils n'avaient pas besoin de travailler. Et à l'époque, chez les Grecs, il y avait des gens qui bossaient. On disait le peuple, le reste du peuple. Et quand Jésus dit « heureux les pauvres », en esprit, les pauvres de cœur. Vous savez ce qu'il est en train de dire? Heureux ceux qui se disent dans leur cœur, j'en ai pas assez de Dieu. Je n'ai pas assez de patrimoine. Je suis pas encore arrivé spirituellement où j'en sais tellement sur Dieu. Jésus est en train de dire, en fait, je pourrais le rendre tellement simple. Jésus est en train de dire, heureux les humbles. Heureux ceux qui ont soif. Heureux ceux qui en veulent. C'est tout simplement ça. Jésus dit, heureux ceux qui s'intéressent au royaume. Parce que pour s'intéresser aux choses de Dieu, il faut avoir envie. Il faut avoir une soif. Il faut sentir un manque dans notre vie. Et Jésus dit, heureux ceux qui considèrent qu'ils n'en ont pas assez. J'aimerais terminer avec une déclaration ce matin. Une déclaration remplie d'amour. Si Jésus dit heureux, c'est qu'il implique aussi un malheur. Comprenez-moi bien ce matin. Les gens qui vont vraiment vous aimer dans la vie, ne sont pas ceux qui vont toujours vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Il y a une expression chez nous, on dit « flatter dans le sens du poil ». Voyez-vous? Il y a des gens qui vont toujours te dire ce que tu vas entendre. Mais ceux qui vont vraiment nous aimer sont ceux qui vont avoir le courage parfois de nous avertir. Et Dieu nous aime. Et Dieu vous aime, monsieur, madame, ce matin. Et dans son vif amour pour vous, il va même avoir le courage de venir vous faire peur parfois, de venir vous piquer parfois. De vous flatter dans le sens inverse du poil. Dans ce que Jésus dit, nous pouvons comprendre aussi, malheur, s'il dit heureux, ça veut dire aussi malheur envers le contraire. L'antonyme de heureux, c'est malheureux. Nous pourrions comprendre malheur avec amour. C'est Dieu qui dit, c'est pas que je vais t'envoyer un malheur. C'est Dieu qui dit, tu vas devenir malheureux si tu ne te considères pas pauvre spirituellement. Si tu considères que tu en as assez, que tu n'as plus besoin de chercher la face de Dieu, c'est toi qui vas tomber dans un malheur. Malheur à ceux qui se sentent riches sur le plan spirituel. Jésus, en fait, veut dire malheur aux orgueilleux. Malheur aux réfractaires. Réfractaire, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas enseignable. Malheur aux indépendants. Ceux qui ne cherchent pas à être dépendants de Dieu. Malheur aux cœurs rebelles. Malheur à ceux qui ont toujours raison et jamais tort. En tant que pasteur depuis maintenant plusieurs années, parfois on rencontre des gens qui sont de façon récurrente dans des problèmes. Il y a des saisons, mais c'est récurrent, ça revient. Ils ont des conflits avec un, ça repart, ça se règle, on leur pardonne. Ou bien, ils pardonnent, et puis un peu plus tard, ils sont encore en conflit avec quelqu'un d'autre. Et quand on les adresse, on découvre des gens qui n'ont jamais tort, des gens qui ont toujours raison, des gens qui se croient riches spirituellement. Et Jésus dit malheur à ces gens-là. Il y a un malheur qui va venir dans ta vie. Premièrement, ton premier malheur, c'est sur le plan social. Tu vas perdre de plus en plus du terrain. Moi, j'ai vu des gens qui ne sont pas capables de garder leur travail. Moi, j'ai connu des gens qui, en 10 ans, ont fait 10 jobs différents. Et à chaque fois qu'on leur parle, c'est jamais eux qui sont dans le tort. C'est toujours le patron. Ça fait 10 ans, ils ont fait 12 sociétés en 10 ans, mais en 10 ans, c'est 12 mauvais patrons qu'ils ont eus, qu'ils ne comprennent jamais. Comprenez où je veux en venir? Et je le dis avec amour. Mais c'est eux qui vont perdre. Malheur à ceux qui ont toujours raison. Malheur à ceux qui croient profondément que c'est la faute des autres, car le royaume des cieux n'est pas pour eux. Mais heureux. Heureux ceux qui se sentent pauvres en ce qui concerne les choses de Dieu. Moi, je vais vous dire c'est quoi un vrai homme de Dieu. J'entends beaucoup cette expression en France, un homme de Dieu, serviteur de Dieu. Parfois, je vais dans les églises et on me dit, « Oh, pasteur, vous êtes un serviteur de Dieu. » On va dire, « Lui, c'est un homme de Dieu. Ah, lui a opéré des prodiges et des miracles, c'est un homme de Dieu. » Moi, je vais vous dire c'est quoi un homme de Dieu. C'est quelqu'un qui se sent pauvre. C'est quelqu'un qui se sent démuni face aux choses de Dieu. Vous remarquerez que les plus grands hommes de Dieu dans la Bible étaient des hommes démunis. Je lisais dernièrement un commentateur qui commentait Jean-Baptiste. Il disait, Jean-Baptiste était tellement démuni en lui-même qu'il est devenu l'un des plus grands hommes de Dieu. Heureux ceux qui se sentent pauvres concernant les choses de Dieu. Heureux les humbles. Heureux les enseignables. Teachable, enseignables. La Bible dit, reprends le sage, il t'aimera. Ça veut dire, reprends quelqu'un, tu vas voir s'il est sage. Là, maintenant, je ne suis pas en train de lancer un nouveau club ou un nouveau sport à l'église, hein, aux nouvelles pratiques, que vous allez tester si les gens sont sages autour de vous, vous allez constamment leur faire la morale. Non, 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 non. On a une expression chez nous, on dit, il y a des chrétiens pelles. Vous avez peut-être jamais entendu ça. Il y a des chrétiens pelles. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église et ils viennent avec une pelle. C'est pas pour frapper personne, mais ils viennent à l'église avec une pelle. Vous savez pourquoi ils viennent avec une pelle? Quand le pasteur dit quelque chose qu'ils aiment bien, ils attrapent ce que le pasteur dit. Ils disent, ah, ça, c'est bon pour lui. Ah, ouais, les rebelles. Ça, c'est bon pour lui. Ah, le jeune, dernièrement, c'est le jeune. Les jeunes, c'est tous des rebelles. Les jeunes, ils chantent pas à l'église. Les jeunes, ils ferment pas les yeux. Non, non, ils sont pas consacrés, nos jeunes. Et là, le pasteur, il dit, ah, ça, c'est vraiment pour les jeunes. Putain, les jeunes, tiens, c'est à toi, ça. Les chrétiens pellent. Ce matin, déposez votre pelle. Ouvrez votre cœur. Regardez à vous. Moi, je regarde à moi quand je lis ce texte. Il ne faut surtout pas qu'il y ait quelqu'un qui vous vienne à l'esprit. Ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Si vous pensez à quelqu'un pendant que je mentionne ça, c'est que le Saint-Esprit n'agit pas dans votre cœur. Si le Saint-Esprit agit dans votre cœur, vous allez tout à coup vous voir. Moi, je me vois là-dedans. Heureux les dépendants. Heureux ceux qui reconnaissent leur tort. Heureux ceux qui ne blâment pas les autres. Heureux ceux qui reconnaissent Dieu dans tout ce qui leur arrive. Amen. Il y a des gens, il leur arrive un truc, ils sont frappés par un truc, c'est de sa faute à lui, c'est de sa faute à elle. Et c'est certain, il y aura toujours un intermédiaire humain. Mais je vais vous dire une chose, il est écrit dans la Bible que parfois Dieu va envoyer quelqu'un pour te faire du mal. Parce qu'il veut faire monter quelque chose en toi qui a besoin de sortir. Il veut faire monter le mauvais à la surface. C'est profondément biblique. Heureux ceux qui voient que quand il leur arrive un truc qu'ils n'aiment pas, c'est pas quelqu'un qui vient sur leur chemin, c'est Dieu qui envoie quelqu'un. Il y a des gens qui m'ont fait mal dans ma vie, des gens qui m'ont blessé dans ma vie. Et il y a des moments où je leur en ai voulu, mais je suis allé vers Dieu et Dieu m'a parlé et Dieu m'a dit, c'est ma main qui te frappe parce que je veux t'aider, je veux te purifier, je veux t'émonder, je veux couper quelque chose dans ta vie, Christian. Heureux ceux qui reconnaissent Dieu dans tout ce qui leur arrive. Heureux ceux qui reconnaissent qu'ils ont le mal en eux. Les soumis à la voix de Dieu, ceux qui sont soumis à la voix de Dieu, le royaume des cieux est à eux. C'est merveilleux. J'aimerais terminer, j'invite les musiciens, j'aimerais terminer ce matin avec quelques petits proverbes. Quelques petites phrases qui sont importantes dans ma vie. Ce n'est pas des versets, c'est juste des maximes, des phrases qui sont importantes dans ma vie que j'aimerais vous laisser ce matin, vous offrir. Les éternelles victimes n'entrent pas dans l'éternité, mais le pire des méchants, lui, peut. Le cœur enseignable met en pratique ce qu'il a reçu. Il y a une chose que j'aime beaucoup à l'Église de Mante-la-Jolie, c'est qu'il y a des gens qui disent « Amen ». Alléluia. Et c'est bon, ça met de la vie, ça porte le prédicateur. Mais, continuez de dire Amen. Mais par-dessus tout, mettez en pratique. Mettez en pratique la parole de Dieu. Le cœur enseignant met en pratique ce qu'il a reçu. Nous sommes tous influencés, mais nous pouvons choisir qui nous influencera. Et la dernière est la plus importante. Qui n'est pas enseignable est sans espoir. Qui n'est pas enseignable est sans espoir. C'est enregistré ce matin, hein, je crois, Kevin? C'est enregistré? Vous pourrez vous procurer CD si vous voulez réécouter ces choses. Juste avant que les musiciens commencent, j'aimerais vous raconter un petit témoignage. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Et quand on donne son cœur à Dieu, Dieu va commencer à vouloir amener le royaume des cieux dans notre cœur. Et il veut nous rendre humbles, enseignables et obéissants. Il y a plusieurs années, j'étais un jeune pasteur et j'étais ce qu'on appelle chez nous un petit coq. Vous dites ça en France, un petit coq? Ah, j'avais toujours le premier et le dernier mot sur tout. Je savais tout. Et un jour, il y a un prédicateur qui est venu très connu, un prédicateur, un homme très, très, très connu qui est venu. Et on m'a donné la responsabilité de m'occuper de lui. Ça a encore plus gonflé le coq. Tassez-vous, ouais, c'est moi qui s'occupe de lui et tout. Je me baladais avec lui dans ma voiture. Je m'assoyais avec lui sur l'estrade et tout, devant des milliers de personnes et tout ça. Je le traduisais et tout, nanana, machin. Et il était là pour 4 jours. Ma femme me dit, Christian, fais gaffe. Tu le conduis, mais tu n'as pas renouvelé ton permis de conduire. Maintenant, au Québec, à tous les deux ans, il faut renouveler son permis de conduire. Ça veut dire qu'à tous les 2 ans, ton permis de conduire pour conduire ta voiture, il est plus bon. Tu ne peux plus conduire ta voiture. Mais moi, j'étais un petit peu au-dessus de tout ça, tu vois. Moi, j'étais un serviteur de Dieu. Et ma femme me dit, Christian, fais gaffe. Ton permis de conduire n'est pas renouvelé. Les plaques, il faut renouveler les plaques de la voiture, hein, à tous les 2 ans aussi. On s'en fout. Il faut renouveler les plaques. Et les assurances. Tout était à renouveler. Il n'y a plus rien qui était à jour. Je me baladais dans une voiture avec un pasteur. J'ai plus de permis de conduire. J'ai plus de plaques qui marchent et j'ai plus d'assurance. Mais moi, je suis au-dessus de tout ça, tu vois. Moi, je suis un homme de Dieu, moi. Et le pasteur, il vient. Et ma femme me dit, Christian, fais gaffe. Et j'aimerais vous dire, messieurs, en ce jour de la fête des pères, le plus beau cadeau que je pourrais pas vous offrir, messieurs, écoutez votre femme. Là, mesdames, vous avez manqué une super opportunité de dire Amen. Amen. La deuxième réunion, je suis assis là sur l'estrade, et le pasteur parle. L'homme de Dieu parle et tout. Il dit, il faut être soumis aux autorités. Et da, da, da. Et les autorités de la ville, de l'État. Un chrétien, c'est un bon citoyen, que tout est en règle. Moi, je suis assis sur l'estrade. Amen, amen. Et ma femme me regarde. Amen, alléluia, tu vois. Quand tout est fini, je dis à ma femme, je dis, écoute, c'est fermé. Là, c'est jeudi passe, vendredi passe. Samedi, je suis OK. tous les bureaux sont fermés, donc je ne peux pas renouveler, tu vois. J'ai une excuse. Et je dis à ma femme, lundi matin, je dépose le pasteur à l'aéroport et vite, je vais renouveler tous mes papiers. Je dépose le pasteur à l'aéroport, je lui donne sa valise, on ferme le coffre, on se fait une accolade. Chez nous, on ne fait pas la bise, on se fait une accolade comme ça. Mais je n'ai pas de problème avec la bise. Hein. On se fait une accolade, il s'en va, je me retourne, j'ai deux policiers en pleine face. C'est pas n'importe quel policier, parce que l'aéroport, c'est une zone internationale. C'est pas la police, c'est ni les gendarmes. C'est l'équivalent du FBI. Vous connaissez le FBI, hein? Des trucs comme ça. Chez nous, ça s'appelle le RCMP. C'est la plus haute instance de police nationale, internationale. C'est un gros, gros truc. Et il me regarde, Monsieur Robichaud, pendant que vous étiez là, nous, vous êtes sur un territoire international parce qu'il y a de la drogue et tout, donc ils font très, très attention. On a vérifié que vous n'êtes plus à jour sur rien. Ah bon, oui, c'est vrai. Et vous allez laisser votre voiture là. Une remorque va venir la chercher. Vous allez payer la remorque. Ça va vous coûter 150 euros. Vous la mettez à la fourrière. Ça coûte 50 euros par jour. Vous allez changer vos plaques. Clac, 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 clac. Et vous avez un PV de... Je me souviens, on en a parlé hier, on ne se souvient plus du prix, mais un truc pour un coupe-gorge. Et je rentre dans ma voiture et là, ma femme me parle. Elle est noire de colère. Je t'avais dit. Mais écoutez-moi bien ce matin. Dans tout le brouhaha, le Seigneur m'a parlé. Vraiment, Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a dit, voyez-vous, il y a des gens qui ne sont pas enseignables. Ils vont accuser la police, ils vont accuser leur femme, ils vont accuser tout le monde. Mais le royaume des cieux est pour ceux qui sont enseignables. Et le Saint-Esprit me parle et me dit, c'est moi qui te frappe. T'es un petit coq. Et Dieu me dit, tu ne l'auras pas le PV. Tu ne vas rien payer, mais je veux juste te faire peur un petit peu. Voyez-vous, Dieu fait ça parfois dans vos vies. Hein? Je veux juste te faire peur un petit peu. Et je regarde ma femme, je dis, chérie, Dieu m'a parlé. Elle dit quoi? T'inquiète pas, on ne paiera rien. Elle dit quoi? C'est un avertissement de Dieu. Elle dit, c'est n'importe quoi. Tu vas dire à la police que Dieu t'avertit et que tu ne paieras rien. Non, je ne sais pas comment, mais tu vas voir. Le policier revient avec son super chapeau, comme tu vois dans les films et tout, là, un peu cow-boy, un grand gaillard, et tout, je sais pas, avec ses bottes et tout. Non. Et chez nous, les policiers, c'est comme des cow-boys, tu vois, tu les respectes. Il ne faut surtout pas sortir de la voiture. Hein. Et puis, je suis dans ma voiture, comme ça, il revient et dit, « Jeune homme, j'ai pitié de toi. » Je dis, « Moi aussi, j'ai pitié de moi. » Il me dit, « Écoute, il dit, t'es bien mal barré, là. » Il dit, « Je ne peux pas te laisser partir. » Parce que ça, ici, ce n'est pas comme une police, comme la police normale, municipale ou nationale. Je ne peux pas te faire grâce comme ça. Si je te laisse partir, je peux perdre mon job. Alors, je vais te faire une grâce. Il y a un parking là-bas. On va t'escorter. Je m'escorte. Oui, tu es dans un territoire international, je ne peux pas te laisser partir. Nous allons t'escorter avec 3 voitures de RCMP. C'est un peu comme des voitures de FBI, tu vois. On va t'escorter. Tu vas parquer ta voiture là-bas. Tu prends un taxi, tu vas payer tes papiers et tu reviens. Et je te fais confiance. Le sourire, tu vois. Je suis passé de criminel à star. J'étais une star. Je me baladais dans la voiture. J'avais une voiture de police devant moi avec les gyrophares qui tournent comme ça. J'avais une voiture derrière moi avec les gyrophares qui tournent et j'avais le chef à côté de moi avec son camion de police avec les gyrophares. Et moi, je faisais des petites tatas, tu vois. La star. Tu vois. Vous savez où je veux en venir, hein? Parfois, Dieu va permettre ça dans nos vies. Mais Dieu dit, qui est-ce qui va avoir le dernier mot sur toi? La sagesse dit dans les proverbes, rendez-vous à mes arguments. On va baisser la tête en terminant ce matin. Hallelujah. Seigneur Jésus, nous t'aimons, Seigneur. Et nous voulons te reconnaître dans toutes nos voies, Seigneur. Nous voulons te reconnaître dans tout ce qui nous arrive, Seigneur. Seigneur, tu dis malheur aux orgueilleux, heureux les humbles, heureux ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de moi. Et Seigneur, nous voulons reconnaître notre besoin de toi ce matin, Seigneur. Je veux que tu aies le premier et le dernier mot sur ma vie, Seigneur. Hallelujah. Peut-être y a-t-il quelqu'un ici ce matin et vous voulez dire, « Pasteur, ce qui a été dit, c'est vraiment pour moi. Et je veux prier pour vous. » Vous voulez dire, « J'ai besoin de m'humilier devant Dieu. » En terminant. Merci, on va prier ensemble. Venez me voir après. Venez me voir après, on va prier ensemble. Et vous voulez dire au Seigneur ce matin, on va prier ensemble. Vous voulez dire, « Pasteur, priez pour moi. » Parce que c'est moi. C'est très, très dur. Hein? C'est souvent les humbles qui disent, « Je suis orgueilleux. » Et c'est souvent les orgueilleux qui disent rien. Et ce matin, le Saint-Esprit t'aime. Le Saint-Esprit te dit, « Rends-toi à mes arguments. Tu seras tellement heureux si tu t'humilies devant moi. Tu seras tellement heureux si tu t'humilies devant moi. » On va faire quelque chose de spécial ce matin. Si vous voulez que je prie pour vous, je vais vous demander juste de vous lever à votre place. Je vais prier pour vous. Levez-vous où vous êtes. Vous dites, « J'ai besoin de m'humilier devant Dieu. » Hallelujah. Seigneur Jésus, tu es bon ce matin, Seigneur. Tu es rempli d'amour pour nous ce matin, Seigneur. Et Seigneur, nous nous humilions devant toi ce matin, Seigneur. Moi le premier, Seigneur. Nous voulons être heureux, Seigneur. Nous voulons un cœur pur, Seigneur. Nous voulons un cœur humble, Seigneur Jésus. Il y a une condition pour entrer dans le royaume des cieux. Et c'est un cœur humble, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et là où vous êtes, sans lever la voix au-dessus des autres, mais tout doucement, là où vous êtes à votre place, commencez juste à prier tout doucement, juste à murmurer au Saint-Esprit tout doucement. Commencez à dire, « Seigneur, prends ma vie, Seigneur. Seigneur, aie le dernier mot sur moi, Seigneur. Seigneur, je veux entrer dans le royaume des cieux. Je veux me revêtir de Jésus-Christ. Hallelujah. Je reconnais que le royaume sans le roi perd tout son sens. » Jésus, tu es le royaume de Dieu. Jésus, tu es la cité de Dieu. Hallelujah. Je veux le gouvernement d'un seul sur ma vie. Comme dit le dictionnaire, je veux le gouvernement d'un seul sur ma vie. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Hallelujah. Si vous voulez bien ce matin, faites juste tendre vos mains tout doucement vers le Seigneur. Si vous pouvez, levez vos mains tout doucement vers le Seigneur, sans frapper personne. Sabrina va nous conduire dans un dernier chant. Et après, nous allons conclure la réunion ensemble. Hallelujah, précieux Jésus.